France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre, quatrième chef de la semaine, pas toujours reconnu à sa juste valeur, c'est Erich Leinsdorf. On reste dans la même sphère que les jours précédents, car quand Leinsdorf est mort en 1993, il était le dernier des grands chefs d'Europe centrale à s'être exilé aux États-Unis pour fuir le nazisme. Un juif viennois, né en 1912, qui avait commencé une carrière européenne à Salzbourg, où il était l'assistant de Bruno Walter, lui aussi, et de Toscanini. D'ailleurs, dans la flûte enchantée dirigée par Toscanini à Salzbourg en 1937, c'est Leinsdorf qui tient le Glockenspiel. On n'entend pas grand-chose, mais je vous en mets quelques secondes pour le témoignage. Notre ingénieur du son, Pierrick Charles, a fait ce qu'il pouvait pour rendre à peu près écoutable ce brouillard sonore. En tout cas, ça m'émeut d'imaginer que celui qui joue le Glockenspiel dans La Flûte Enchantée, dirigé par Toscanini en 1937, c'est le futur maestro Erich Leinsdorf. Alors en 1937, l'Allemagne est nazie depuis 4 ans, l'Autriche ne l'est pas encore, mais Leinsdorf sent que l'étau se resserre et que l'Europe deviendra bientôt inhabitable. Alors, il suit les conseils de Bruno Walter et de l'immense chanteuse Lotte Lehmann, qui le recommande au Met à New York. Il commence répétiteur. Très vite, il se voit confier la première direction d'un opéra. À 25 ans, il est le plus jeune de l'histoire de cette maison. À la mort d'Arthur Bodansky, qui était le wagnérien attitré du Met, Leinsdorf se voit confier la responsabilité du répertoire allemand à New York. Il existe beaucoup d'enregistrements sur le vif de l'époque qui donnent une idée de son style wagnérien, rapide, nerveux, tranchant. Et il faut qu'il ait eu du cran, car sur le plateau, il avait les plus grandes voix wagnériennes de l'époque, Kirsten Flagstad, Lotte Lehmann, et puis l'extraterrestre, Lauritz Melchior. Et quand celui-ci est Siegmund dans la Valkyrie et se met à tenir ses deux cris, Welse, 16 et 18 secondes, le chef n'a plus qu'à attendre.
Entzücken, Morgen, Himmel.
Et voilà, ça c'est ce qu'on pouvait entendre dans Wagner au Met dans les années 40. Lauritz Melchior, le plus grand ténor wagnérien de l'histoire, et le jeune Leinsdorf à la direction dans la Valkyrie. Leinsdorf avait réussi à fuir l'Autriche quelques mois avant l'Anschluss et à gagner les États-Unis grâce à l'aide du futur président Lyndon Johnson, qui n'était encore que parlementaire. Il est naturalisé américain en 1942 et en 43, il est engagé comme directeur musical à l'orchestre de Cleveland pour succéder à Arthur Rodzinski. Seulement voilà, peu après, il est incorporé dans les forces armées américaines. Il sera démobilisé un an plus tard, mais le mal était fait. En son absence, il a fallu engager des chefs invités. On a pris des décisions importantes sans lui. Bref, il a perdu la main. Il démissionne en 46 et c'est George Sell qui arrive avec le succès qu'on connaît. Notez que Leinsdorf ne restera jamais très longtemps chef titulaire d'un orchestre. Il nous reste assez peu de choses de son mandat à Cleveland, on a tout de même ce menuet de Mozart. Un des rares témoignages d'Erich Leinsdorf à Cleveland, ce menuet Köchel 409 de Mozart en 1946. Après son rendez-vous manqué à Cleveland, Leinsdorf est nommé directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Rochester dans l'État de New York. Il y reste 8 ans mais ne s'y plaît pas. Il faut dire que cet homme d'une intelligence et d'un humour redoutable a aussi un esprit critique assez acerbe. Mais la consécration finit par arriver en 1962. Charles Münch quitte la direction de l'Orchestre Symphonique de Boston et c'est Leinsdorf qui est engagé pour lui succéder. Alors, tout ne se passera pas comme espéré, mais commençons déjà par le positif. On a l'habitude d'évoquer la période Leinsdorf comme une transition entre Munch et Ozawa à Boston. Mais c'est injuste, hein. Leinsdorf laisse quand même des réalisations de premier ordre. C'est un metteur au point exigeant. Il a la rigueur qui pouvait parfois manquer à Munch. D'ailleurs, il n'a pas son pareil pour repérer les fautes d'édition dans les partitions. Alors, le jeu de l'orchestre perd peut-être un peu en flamboyance, mais gagne en précision. Et puis, il fait évoluer le répertoire. En 721 concerts, il dirige 429 œuvres différentes, dont 32 créations, avec aussi des découvertes pour le public local, comme Janáček, si on écoutait la petite renarde rusée. Témoin de la qualité du travail d'Erich Leinsdorf à Boston, capté en concert en 1966, cette suite pour orchestre de la petite renarde rusée de Janáček. À Boston, Leinsdorf ne reste que 6 ans. En fait, c'est le comité qui ne l'a pas renouvelé. Il faut dire qu'il n'aime guère la fonction de directeur musical à l'américaine, où il faut tout le temps être sur la brèche avec l'administration, les mécènes, les syndicats et... au fond, il n'arrive pas à se rendre populaire. Après l'extraversion de Munch, son style intellectuel, un peu distant, passe moins bien. Alors lui raconte qu'il était soulagé de partir, mais le légendaire timbalier de Boston, Vic Firth, m'a raconté qu'un soir, Leinsdorf a sonné chez lui, au bord des larmes, en lui disant « Vic, le comité ne va pas me renouveler, vous êtes influent, j'ai envie de rester, vous pouvez intercéder ». En vain. Mais ne balayons pas d'un verre de main les réalisations de Leinsdorf à Boston. Par exemple, une fois de plus cette semaine, dans la musique de son compatriote viennois, Gustav Mahler, dont, au risque de me répéter, on était peu familier à l'époque, eh bien, ses interprétations ont de la gueule. La première symphonie, par exemple.
Thank you.
un souvenir personnel. En mars 1986, Erich Leinsdorf est venu diriger la première de Mahler avec l'Orchestre de Paris à la salle Pleyel. 38 ans après, ça reste la plus belle première de Mahler à laquelle j'ai jamais assisté. Malheureusement, l'Orchestre de Paris n'en a pas de traces sonores, mais Leinsdorf l'a enregistré lors de son bref mandat à Boston. C'est la version superbe et très viennoise que je viens de vous passer. Après Boston, Leinsdorf ne reprendra pas de poste fixe. Comme il le dit dans son autobiographie, il redevient un homme libre. Il est alors un chef invité, admiré pour sa maîtrise souveraine, pour sa culture aussi, qui s'est construite dans la modernité viennoise. C'est à lui, par exemple, qu'on doit, en 1975, le premier enregistrement mondial d'un opéra qui, aujourd'hui, est revenu au répertoire, mais qui était alors une découverte, La ville morte, de son compatriote Korngold, qui, comme lui, avait quitté Vienne dans les années 30 pour les États-Unis.
Ihr Kleid, die gleiche Farbe, fast der gleiche Schnitt. Zu diesem Kleide passt ein alter Schal, der hier verfahrt ist. Darf ich ihn um die schönen Schultern hängen?
Intro. Weiß ich sie noch?
Avec ce duo de Paul et Marietta à l'acte 1 de La Ville morte de Korngold, René Collot, Carole Neblett et l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Erich Leinsdorf prend fin cette évocation de quatre chefs à ne pas oublier. Tout comme il ne faut surtout pas oublier Marie Groux, chargée de réalisation, Pierrick Charles, technicien, Soizic Noël, attaché de production. Et on n'était pas trop de tous les quatre pour vous proposer Au cœur de l'orchestre. La semaine prochaine sera baroque après une longue séquence symphonique. Portez-vous bien d'ici là et à très vite sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.